pose en particulier deux questions, parmi bien d'autres. La première, c'est: est-ce que la démocratie sur laquelle nous fonctionnons actuellement est encore fiable? Ma réponse est non. Mais quelle démocratie inventer? Et là, la conception de la démocratie demande une longue réflexion. Mais ces histoires de voter tous les 4 ans, 5 ans, 3 ans, et puis de laisser carte blanche à ceux qui nous dirigent, devient totalement ridicule. Alors il faut repenser la démocratie. Puis il y a une autre question, majeure, qu'un auteur récent a publié à propos d'un livre, ses décisions politiques, un livre passionnant, et il montre que, dans ces temps de tempête, il faut confier son pays à quelqu'un qui en ait la capacité. Et ces capacités, il s'interroge. Elles sont ni de droite ni de gauche, elles sont liées à la personne, à celui qui va être le capitaine du navire, qui va affronter les tempêtes. Et il découvre, il nous dit, qu'autrefois, pratiquement avec nous, ça a été le dernier De Gaulle, en partie Mitterrand, ont connu la guerre, ont été affrontés à des épreuves lourdes, ont fait face. Maintenant, nous avons des présidents de la République qui ont été éduqués dans des écoles, de façon abstraite. Des gens du peuple ajoutent quelque chose de terrible. À propos des enfants, mais ceci est vrai pour tous. Je recevais un mail récemment d'une femme qui se posait la question: qu'est-ce qu'une femme dans la vie sans enfants? Et je pense à un autre commentaire d'une femme récemment qui n'avait pas voulu avoir d'enfants. Je dis bien qu'il n'avait pas voulu avoir d'enfants et qui s'interrogeait en disant: je me pose la question de savoir si je n'ai pas fait la plus grande erreur de ma vie. Je dis bien parce que volontairement, je n'en voulais pas. Et là, la question qui est posée: les enfants font partie des gens qui forgent l'épreuve, car éduquer, c'est une épreuve, et c'est de donner chaque jour la preuve d'eux. Donc, cette double dimension de refonder la démocratie, c'est pourquoi apparemment les dictateurs réussissent mieux que les démocrates, qui sont flous, qui sont incertains, et on voit des mouvements qu'on appelle populistes, sur lesquels il y aurait longuement à s'étendre, car tout d'un coup, les gens découvrent qu'ils vivent dans un pays avec un scandale incroyable. Nous avons des gens qui gagnent des revenus mensuels impensables. Dois-je dire que récemment, un entraîneur connu en France, à qui on pose la question « Quel est votre salaire ?» dit « Je ne répondrai pas, car c'est indécent. » Comment peut-on imaginer que dans un pays, des gens qui ne gagnent pas le SMIC puissent cohabiter avec des gens qui se font X fois le SMIC par mois ? Il y a là un scandale qu'il faut arrêter. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'un écart insupportable entre des gens qui gagnent et qui ne savent plus que faire de leur argent et ceux qui sont dans une pauvreté totale. Mais il y a plus. Car cela, c'est poser la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire de l'avoir essentiel à vivre. Et on peut vivre avec un avoir modeste. Mais il faut-il avoir encore cet avoir? Mais il y a une question beaucoup plus fondamentale. C'est la question de l'être. C'est la question des valeurs. Et au fur et à mesure où nous voyons s'effondrer les religions, sauf probablement encore l'islam, pour des raisons politiques, historiques, etc., plus nous voyons les gens désemparés. Car il faut maintenant fonder sa vie sur peut-être la disparition d'un horizon de l'au-delà et concevoir sa vie ici-bas. Et c'est une question fondamentale. C'est donc la question au-delà de l'avoir, de l'être, et c'est la question de la démocratie. Ce sont des questions fabuleuses qui méritent le dialogue, qui méritent l'échange, et ce n'est pas dans la violence que se trouvent les réponses.
Merci beaucoup. Maintenant, le mot connaissance.
Alors, ce mot connaissance est souvent confondu avec savoir. Et comme je pense que les chercheurs, avec les poètes, ont la responsabilité du langage, un chercheur doit travailler sur le langage. De quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous? Sinon, on peut échanger pendant des heures et des heures et ne pas se comprendre. Donc pour moi, la connaissance est bien plus que le savoir. Je peux savoir sur vous, par exemple, Anna, plein de choses et ne pas vous connaître. Je peux savoir très peu de choses sur vous et vous connaître, car la connaissance est une autre voie. Il y a d'ailleurs entre la connaissance qui s'écrit de deux façons, en un mot ou en deux mots. Et quand elle s'écrit en deux mots, co, trait d'union naissance, c'est la naissance avec l'autre de soi-même. Et à ce moment-là, la connaissance est très proche de l'amour.
Merci beaucoup. Maintenant, le mot vieillesse.
Ah ! Je pense que ce mot vieillesse fait partie des transformations silencieuses dont parle François Julien et qu'il faut toujours se rappeler. La vieillesse commence avec la vie. Nous commençons à vieillir quand nous naissons. La vieillesse n'est donc pas une séquence de la vie, elle est un processus, comme le dit François Julien, silencieux, qui fait son œuvre. Il est amusant, je pense à vous en particulier, et vous allez me dire si ce que je dis correspond à ce que vous vivez. Il est étrange que jusqu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, souvent l'adolescent veut être un peu plus vieux que l'âge qu'il a. J'ai rencontré beaucoup d'adolescents qui n'avaient pas 19 ans, qui étaient à 18 ans et un ou deux mois, et qui disaient « je vais vers mes 19 ans ». Et puis une fois qu'ils ont basculé sur les 19-20 ans, ils ralentissent le rythme, ils restent plus proches des 19 ans que des 20 ans vers lesquels ils vont. Est-ce que vous avez vécu un peu cette situation ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui.
Alors, c'est la première séquence de la vie. On veut être plus vieux que son âge parce qu'on pense que lorsque l'on va atteindre 19 ans, 20 ans, on va être enfin libre et on va enfin pouvoir décider de sa vie. Puis après, on ralentit le rythme. Et on rentre dans la deuxième période, l'adulte, dit actif, ou plus précisément, la vie dite adulte, car l'adulte pour moi n'existe pas comme terme achevé, il n'en finit pas d'être adulte, et comme actif, car c'est une forme d'activité parmi d'autres. Et ce n'est, la vieillesse, on n'en parle que lorsque l'on entre dans la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire l'âge de seigneur à partir de 60 ans. Non, la vieillesse est un mouvement qui commence avec la vie. J'ai envie de dire que l'on doit se préparer à vivre et à vieillir en même temps. C'est le même problème, c'est le même enjeu. La manière de se nourrir, la manière de gérer son corps, son âme, son esprit, commence à la naissance et accompagne tout au long de la vie. La vieillesse est donc un thème, un problème, un enjeu, une situation qui commence avec la vie. La vieillesse est quelque chose de surprenant. Et c'est la question de toute la vie. Tout se passe dans la vie comme s'il y avait un malin, je dis bien un malin, qui était sous la vie et qui tirait les ficelles. Et la vie, à ce moment-là, devient une sorte de situation incroyable. Plus on perd de choses et plus on en gagne. Plus on perd de choses, par exemple, on perd pour une femme, surtout l'homme y fait moins attention, bien que ça commence à changer. Les rites qui surgissent marquent visiblement la vieillesse. Donc, on perd sa jeunesse. La jeunesse, c'est l'absence de rides, entre autres. D'accord ? Et donc, tout se passe comme si la vie était un processus dans lequel plus on perdait de choses, plus on en découvrait. Je dois dire qu'à titre personnel, inévitablement, comme tout le monde, et bien malgré moi, je perds des choses, j'essaie de garder un certain nombre de choses, mais la jeunesse n'est pas quelque chose qui est propre à une séquence de vie, la jeunesse nous accompagne toute la vie. Et plus on vieillit, plus on peut être jeune. Le général Marc Arthur a fait un très beau texte sur ce thème. Et donc, la vie, c'est aussi de découvrir ce qui est essentiel. C'est peut-être le début de l'exploration de l'invisible qui commence à être perçu comme plus visible. C'est le goût de l'art, c'est le goût de la beauté, c'est le goût de l'intimité, c'est le goût de la convivialité, c'est le goût du silence, c'est le goût de prendre son temps, c'est le goût d'étudier. Je vais vous faire une confidence. Le mot étude, étudiant, je ne l'ai jamais vécu à temps plein, car en reprenant mes études, j'ai toujours travaillé. Vous avez la chance d'être étudiant à temps plein. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Jamais été autant étudiant que maintenant. Étudiant, c'est quoi ? C'est avoir du temps devant soi, un contexte de relative liberté, ce qui n'est pas propre à tous les étudiants, malheureusement. C'est le goût de l'exploration, c'est le goût de la découverte, c'est le goût de se dire qu'étudiant, on est sur un mouvement ascendant qui, bien entendu, va basculer dans la vie active, qui fait peur maintenant plus que pour moi. Mais je suis étudiant parce que je n'ai jamais autant étudié, jamais autant lu, jamais autant écrit, jamais autant conçu ma vie autour de l'étude. Donc je peux dire que j'ai jamais été autant étudiant grâce à ma vieillesse.
D'accord, merci beaucoup pour cette réflexion. Maintenant, le mot « recherche ».
Ah ! Alors, quand on pose ce mot, on se dit, et je me suis souvent dit dans ma vie, que la recherche concernait des chercheurs, d'accord ? Et que les chercheurs étaient des gens qui étaient en laboratoire, qui parfois mettaient beaucoup de temps pour découvrir des choses, parfois le trouvaient assez facilement, par surprise, parce qu'ils se laissaient guider par l'incertitude, en l'occurrence. Et pour moi, la recherche, c'était lié à quelque chose qui était tout simplement être une profession plus qu'autre chose. Et puis, avec le temps, j'ai découvert qu'en réalité, la recherche, c'est tout à fait autre chose. Dans un livre que j'ai écrit, Entrer en recherche, je pose la question comment chacun d'entre nous peut entrer en recherche. Par exemple, le monde universitaire devrait développer l'esprit de recherche. Et dans ce livre, je montre que souvent, l'université apprend à travailler sur un objet de recherche, sur une démarche de recherche, c'est-à-dire à poser une question, à créer des hypothèses, à recourir à une technique, à recueillir des données, etc. Mais que l'esprit de recherche n'existe pas. Et je vois beaucoup d'étudiants qui ont fini leur master, voire leur doctorat, et qui sont découragés. Ils ne veulent plus de recherche. Ils en ont marre. On n'aura pas donné le goût de la recherche. Et là, j'allais dire que c'est quelque chose d'inimaginable. La recherche concerne chacun d'entre nous. J'ai préfacé dans les années 90 un petit livre d'Yves Saint-Arnaud, « Connaître par l'action », sur lequel je reviens, dans lequel Yves Saint-Arnaud, qui est québécois, développe beaucoup le concept de praticien-chercheur. Praticien, trait d'union, chercheur. Il y a l'enseignant-chercheur. Mais l'enseignant-chercheur n'est pas celui qu'il faudrait à l'université. C'est un enseignant qui enseigne d'un côté et qui est chercheur de l'autre. Le trait d'union, en fait, il n'existe pas. Donc, la recherche est quelque chose qui est chacun d'entre nous. Comme le dit très bien Edgar Morin, qu'est-ce que c'est que la recherche ? C'est d'être habité pour toujours par la question sur laquelle on recherche. La recherche, c'est un état d'esprit qui nous accompagne toute la vie pour que notre vie soit existence.
Merci. Enfin, le mot pour clôturer ces 12 mots, l'enfance.
L'enfance. Alors, pour des raisons, personnelles, je suis très attaché à l'enfant et à l'enfance. Et là, comment ne pas te souvenir de ce passage merveilleux dans Lyrie Laborie que j'ai connu et qui, pour moi, est un auteur très contemporain, qui est essentiel, que l'on devrait encore enseigner à l'université, malheureusement. À la fin d'un livre, l'homme imaginant, peu connu, on connaît davantage la Nouvelle Grille ou d'autres livres d'Henri Laborie, Henri dit ceci. « Le vieillissement est un sujet que moi-même me passionne, mais le sujet d'étude qui devrait avoir la priorité des priorités, n'est-ce pas celui de la naissance de l'homme à son humanité ?» Et je vous dirai tout à l'heure la suite. Donc, la question de l'enfance, c'est la question de l'humanité. Je pense que si au cours de l'enfant, de l'étape de l'enfant, l'enfant n'a pas appris à aimer son enfance, il lui manque à jamais quelque chose d'essentiel pour vivre. Car c'est l'enfance qui conduit notre vie. C'est pourquoi je trouve qu'il y a tant de complicité souvent entre le senior, la personne d'un certain âge, et l'enfant. C'est l'enfance. C'est cet état d'esprit d'émerveillement, ce retour à l'essentiel, ce retour à l'état naissant des choses. C'est quelque chose de fabuleux. L'enfance.
Pour clôturer ces 12 mots, nous allons repartir sur une écoute musicale et nous reprendrons après.
Thank you.
Le titre de cette émission est « Cheminer sur notre Terre sans oublier les étoiles ». Alors, pourquoi « sans oublier les étoiles » ?
Question pertinente. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que vivre ? Qu'est-ce que c'est qu'exister ? Puisque exister plus que vivre, c'est cheminer sur notre Terre. J'aime beaucoup cette notion de chemin faisant, qui est très très beau. Moi, comme universitaire, j'avais utilisé autrefois le mot de trajectance, qui est une sorte de tension créatrice entre la trajectoire et le trajet. Mais le poète, lui, parle de chemin faisant. J'aime beaucoup cette expression de chemin faisant, de cheminer, de marcher sur notre terre. Sans oublier les étoiles, pourquoi ? Nous disons parfois, si j'ai la tête dans les étoiles, j'ai les pieds sur la terre. Comme si avoir la tête dans les étoiles, c'était quelque chose qu'il fallait pondérer avec les pieds sur la terre. Moi, je renverserais volontiers la proposition en disant « C'est parce que j'ai les pieds sur la terre que j'ai le désir de regarder les étoiles. » Alors, quand on regarde les étoiles, en fait, moi je me souviens, quand j'étais enfant, je ne faisais pas attention aux étoiles. Mais je faisais attention au ciel. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait dit que l'au-delà, c'était d'aller au ciel. Donc je levais la tête et je regardais le ciel, et je voyais une sorte d'abstraction, je ne voyais rien. Sauf un au-delà, nuageux parfois, imaginons, ce mot de ciel, je crois, je l'ai abandonné. Puis je suis rentré dans celui de firmament, et enfin dans celui des étoiles. Et c'est grâce... un jeune, comme quoi l'échange intergénérationnel est bien quelque chose d'essentiel, que j'ai appris à lire les étoiles dans le ciel. L'étoile du berger, il y a tant d'étoiles surprenantes, extraordinaires. Et puis, au-delà des étoiles, il y a ce monde infini qui nous surprend. Mais il y a aussi autre chose, désormais. Et vous voyez que la lecture que je faisais entre le ciel dans l'au-delà et le ciel d'aujourd'hui, les étoiles, est quelque chose de très différent. Quand je regarde le soir le ciel, je vois bien sûr les étoiles, je vois les avions de plus en plus nombreux, et j'ai appris aussi, grâce à une adolescente, à découvrir l'importance des satellites. Elle m'a expliqué un soir qu'il y avait X satellites environ qui circulaient au-dessus de notre tête. Donc ce monde qui je regarde le soir est un monde de beauté en me disant qu'il y a dans la nuit des étoiles qui brillent, c'est la lumière dans la nuit, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Mais il y a aussi désormais des avions qui circulent, qui transportent des gens d'une partie du monde à une autre. Il y a les satellites, puis il y a déjà l'esquisse d'une guerre intersidérale. Comme si le monde était à la veille de transporter sa violence et la guerre dans le firmament. Quand je regarde le ciel, ce n'est plus de l'au-delà que je pense, à qui je pense, c'est aux étoiles, c'est aux avions, c'est aux satellites, mais c'est aussi à cette guerre redoutable qui semble arriver de plus en plus.
Et maintenant, encore une question. Qu'écrivez-vous en ce moment ?
Alors en ce moment, et d'ailleurs je vous le confie, je n'ai jamais autant écrit que maintenant, et je pense que je ne suis pas encore arrivé à mon dernier livre, car certains auteurs ont écrit leur plus beau livre à la fin de leur vie. Alors j'espère que j'en suis pas encore à la fin, donc je ne suis pas parmi le plus beau livre que j'écris. Mais c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelle université pour le 21e siècle ? Alors pourquoi écrire ce livre ? Parce que je constate que l'université semble confondue de plus en plus avec l'enseignement supérieur. D'ailleurs, le titre en France du ministère, c'est « Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ». Comme s'il n'y avait qu'un enseignement supérieur et que dans cet enseignement supérieur, il y avait l'université, et donc que l'université n'avait plus de spécificité, d'originalité. Et je distingue dans ce livre l'université au XXIe siècle et l'université pour le XXIe siècle. Et j'ose avancer un certain nombre d'idées de cette université pour le XXIe siècle qui certainement vont surprendre. Je pense finir ce livre vers la fin mars et le présenter en avant-première, si je puis dire, au Mexique. Et j'espère à l'ESPOC que mes progressions en espagnol seront telles que je pourrai tenir une conférence en espagnol pour présenter ce livre. Et puis, je continue d'écrire sur le nouvel esprit éducatif parce que c'est un sujet majeur. Et je n'oublie ni l'enfance, ni les seniors. Après avoir créé le Collège international de seniors Harmattan, qui se développe et où nous sommes une équipe de 8 personnes, tout à fait remarquable, et au-delà des 8 personnes, il va y avoir un correspondant par région en France et des correspondants dans 30 pays. Ça va être long, ça va être difficile, parce que les gens ne sont pas habitués à cette conception d'un collège qui vous invite à produire, qui vous invite à étudier, qui vous invite à vous engager, y compris dans l'action. Car à juste titre, Valérie disait « L'homme est action ou il n'est rien ». Je partage tout à fait son idée. Donc, ce collège qui pose la question de la production, de l'engagement dans l'étude, dans le partage, etc., est tellement nouveau que l'on voit bien que des gens hésitent, que des gens reculent un peu. Ce n'est pas grave. Ça fait partie des choses. Je pense qu'il faut être tenace. Voilà les sujets. L'enfance, les seniors, le nouvel esprit éducatif et l'université qui sont mes thèmes majeurs pour l'instant.
Merci beaucoup. Et je pense qu'il est enfin temps de vous souhaiter un très beau Noël, Michel.
Oui, très bon Noël, Anna, et à chacun de ceux qui nous écoutent. Il y a ce soir ici, Anna, un sapin, une crèche, un feu de cheminée, des bougies, autant d'expressions de cette fête autour de l'enfant et plus encore de l'enfance. Je connais combien cela résonne dans votre vie, il me semble.
Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord, oui.
Alors je finis cette citation de Laborie avant que nous nous quittions. Laborie, dans ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, écrivait « Le vieillissement est un sujet que moi-même me passionne. Mais le sujet d'étude qui devrait avoir la priorité des priorités, n'est-ce pas celui de la naissance de l'homme à son humanité ?» Et il ajoutait, et c'est par cela que je vais finir, « Quelqu'un a dit déjà, il y a environ 2000 ans, que nous ne pouvions y parvenir que si nous n'étions que nous ne pouvions y parvenir si nous n'étions pas comme des enfants. Des enfants, c'est-à-dire à cette page vierge sur laquelle ne sont pas encore inscrits à l'encre indélébile les graffitis exprimant l'ensemble des préjugés sociaux et des lieux communs d'une époque. » Je terminerai par cela. Oui, Noël pour moi, c'est la fête de l'enfance qui nous invite à découvrir notre enfance.
Merci beaucoup Michel, très bon Noël et excellente fête de fin d'année.
Merci. En nous quittant, je voudrais mettre l'accent sur deux aspects très importants. Le premier, c'est l'écriture et inévitablement la lecture. Et à propos de l'écriture, je reprendrai cette phrase de Louis Lavelle, si belle. Le propre de l'écriture, écrit-il, c'est de capter l'éternel dans le temporel, c'est-à-dire de nous obliger à nous porter, nous-mêmes, dans le temps, au-delà du temps. La seconde chose, c'est d'insister sur la poésie. La poésie sauvera le monde, a écrit un auteur. Mais un autre écrivain très célèbre a dit « L'art sauvera le monde ». Alors je voudrais, oui, terminer par la poésie. La poésie est la tentative de dire l'indicible, l'usage le plus extrême et le plus risqué du langage. Le poète comme le chercheur sont tous les deux gardiens de notre langage. Le chercheur, pour préciser de quoi il parle, le poète, pour explorer à travers un mot tout ce que nous ne sentons pas, ne voyons pas, et nous ouvrir à des horizons de vie qui nous permettent d'exister.